Ah, c'est beau ça.
Ouais, c'est beau. Je sens qu'il y a de la pistache. Je vois, ouais. Hein, c'est de la pistache, pistache coupée en deux. Ouais. Ça a l'air délicieux.
Avec du canard.
Avec du canard.
Au milieu. Ce serait pas un beau pâté en croûte ?
Dans le pâté en croûte, c'est important à geler.
En région parisienne, il y a énormément de conflits de canards. Alors que dans le sud-ouest, c'est le conflit. C'est vachement mieux.
C'est ça.
Europe 1, 11h30, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bonjour et bon dimanche les amis, installez-vous à notre table. Ce dimanche, nous recevons le chanteur et musicien Thomas Dutronc. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors tiens, on va faire les présentations. Fils de François Hardy et Jacques Dutronc, né un 16 juin à Paris, c'est bien ça ?
Tout à fait.
C'est bien vous ? Baxé avec mention ?
Oui.
Mais quelle mention ?
petite mention, juste assez bien seulement.
Ah, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
C'est la fin de la tournée Frenchie. D'ailleurs, ce sera mardi 7 décembre aux Folies Bergères. L'album Frenchie version deluxe. Alors là, je le dis à nos auditeurs, une belle idée de cadeau de Noël parce que c'est vraiment ce qu'on a envie d'entendre en ce moment. Ça fait du bien. Il y a une ambiance cocooning. Et puis, quel casting ! On va en reparler, mais quel casting sur cet album avec de nouveaux titres en plus qui viennent l'enrichir.
Oui, on a fait des bonus, mais pour Noël dernier, figure-toi, ils sont toujours là. On en parlera si tu veux, tu me diras.
Et comment ?
J'ai plein de phrases déjà automatiques que je peux dire pour vendre mon disque. Non, mais il est vachement bien. Et en plus, là, dans l'édition, ce qui est sympa, c'est qu'il y a la méthode.
Oui.
En plus, pour commencer la guitare.
Pour ceux qui veulent jouer
en chanson,
vos titres,
hein, c'est pas des trucs de.
Il y a des accords
de jazz ou je sais pas quoi. C'est juste pour faire chanter des chansons françaises.
Ça, c'est vachement bien. Et vous allez reprendre la route aussi avec votre père pour la tournée Dutronc et Dutronc. On va en parler également. Ouais. Et puis, on va écouter un de vos titres, un titre en duo avec votre papa.
Ce titre avec mon père, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on repart en tournée. C'est parce qu'on a fait une interview. Il a dit « Alors, vous allez chanter ensemble. Pourquoi vous ne referiez pas une tournée ?» Tout ça. Puis mon père a dit « Ouais, mais pourquoi pas ?» Puis moi, je dis « Putain, c'était chaud. Vas-y, on y va. Génial. »
Comment était votre semaine, Thomas Dutronc ?
Lundi, on s'est fait la nuit de la déprime avec Raphaël Mezrahi, qui est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il est bonnard, qu'est-ce qu'il est drôle et gentil.
Il était ici il y a 15 jours, vous étiez le parrain de cette année de la déprime, avec des chansons tristes et décalées.
Et j'adore les gens qui travaillent un peu dans l'humour, je ne sais pas, il est un peu inclassable, mais il est extraordinaire, on s'est bien marré, c'était épicé.
Les auditeurs pourront voir bientôt sur C8 cette année de la déprime. Alors je sais que vous aimez les plats de copains, Thomas Dutronc, et le chef que vous voyez s'affairer au fourneau aime aussi les ambiances de copains et les plats de copains, c'est le chef Christian Etchebest. Bonjour Christian.
Ah. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Chef des cantines du Troquet, il y a 6 adresses parisiennes, une belle cuisine bistrotière, rassembleuse et canaille. Qu'est-ce que c'est Christian, racontez-nous.
Ça c'est un petit pâté en croûte, parce qu'on vient de faire
le championnat
du monde. On n'a pas gagné, mais on a fini quand même 4e ex aequo.
Et au pied du podium, c'est bien.
C'est pas mal.
Et
écoutez, on est content pour nous, pour une petite maison comme nous. Et puis là, c'est un pâté en croûte canard à la pistache, avec une jolie gelée dessus de canard. Voilà, tout simplement, un classique de la cuisine française.
Il est bon,
Moi,
je lui donne plus que 4e. Hein. J'aurais bien voulu goûter les autres. Mais
nous, c'est le goût qui est très important. Et après, des fois, c'est très technique. Il y avait les Japonais qui étaient là, il y avait un peu de partout dans le monde. Donc, eux, c'est très technique.
C'est du foie gras, c'est
quoi ? Foie gras. Et après, c'est canard de Barbarie.
Ouais.
C'est un petit mélange.
Bravo, Christian Etchebest. Voilà. Quel est le menu de ce dimanche ? Alors, racontez-nous pour Thomas Dutronc, qui aime la cuisine classique, traditionnelle et française, d'après nos informations.
Et aussi tout ce qui n'est pas traditionnel et tout ce qui n'est pas classique.
Bon, moi, j'ai fait assez classique.
C'est large, alors.
Moi, j'ai fait assez classique. On est à la période des Saint-Jacques. Donc, j'ai fait une petite Saint-Jacques en entrée avec un petit crémeux de betterave qu'on voit là, relevé un peu au vinaigre.
Terre-mère, comme on dit.
Oui, terre-mère. Je vais mettre une Saint-Jacques. Thomas, je pense que je vais vous la poêler à vous. Et on va faire, peut-être pour toi, Laurent, je vais la faire peut-être mariner.
Oui, avec plaisir,
on explique
du cuit.
Voilà, comme les Saint-Jacques, c'est tellement bon qu'on produit, on peut faire tellement de choses que voilà.
Et pour le plat du jour, alors là, une recette rassembleuse, racontez-nous.
Voilà. Ça, c'est un casi de veau.
Il est beau, il est beau.
Que j'ai cuit à la broche.
Il est beau.
Bien rosé, tout simplement. J'ai pris une truffe, parce qu'on démarre la truffe aussi.
Ça tombe bien parce que moi je suis végétarien, c'est-à-dire que je mange que du veau.
Ah ben voilà.
C'est joli ça. Du veau corse, j'imagine, vous qui allez souvent en Corse.
Mais oui, mais oui.
Hein, combien de temps la cuisson pour votre casi de veau ?
Comme ça, on a mis à la broche, on a mis 25 minutes.
25
minutes.
Ça va vite.
On va le laisser reposer et après moi je vais le repoiler un petit peu.
C'est un délice là.
Et je fais une bonne purée classique à la truffe, voilà. Et après,
et ben ça part bien comme on dit.
Un bon petit jus.
Alors Thomas, vous le savez, le dimanche, on aime recevoir des invités aussi à cette table. Et je crois que vous êtes amateur de fonds sous-marins. On va recevoir Laurent Balesta, photographe naturaliste. C'est un grand plongeur. Il est resté 24 heures sous l'eau pour faire des photographies qui viennent d'être récompensées. C'est un observateur de nos richesses sous-marines. C'est important de l'entendre en ce moment dans un monde en transition écologique, je trouve.
Génial. Et puis nous, en tant que musicien, tout ça sur la route, on est plutôt dans le vin. Donc toute cette eau, ça fait rêver, quoi, quand même.
C'est
le mec, il reste sous l'eau pendant 24 heures. Je crois que je l'avais croisé déjà. Non, mais sans rire, je suis vraiment admiratif. Je regarde toutes les émissions. Comme ça, avec des histoires de plongée, de fond sous-marin, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment un autre monde et qu'on se rappelle que la planète est
immense et qu'il n'y a pas que de la Terre.
Voilà, exactement.
Emmanuel Rubin, notre gastronome du dimanche, viendra nous raconter aussi l'histoire d'un plat national avec des petits accents bonapartistes.
Ah.
C'est pour rester aussi dans votre, île de
on
beauté.
La main après sur le ventre.
C'est ça, exactement. C'est une recette dont on peut uniquement parler en ayant la main sur le ventre. Thomas Dutronc, c'est quoi pour vous le plat du dimanche?
Ah, écoute, ça peut être un poulet rôti tout simple avec des pommes de terre. Moi, j'adore les bons produits, tu vois, les bons fromages, un bon pain, un bon fromage, un bon vin. Moi, je suis vraiment heureux.
Qu'est-ce que vous faites le dimanche habituellement, Thomas Dutronc?
Je regarde beaucoup de séries. Donc voilà, j'enchaîne une nouvelle série, plusieurs épisodes. Je regarde une émission sur LCI. C'est la seule émission de télé que je regarde sur LCI avec Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit.
L'émission de débat.
L'icône bendite, comme l'appelle mon père. Et c'est vachement bien. Et j'adore cette émission parce que c'est voilà, un petit peu politique, mais c'est des gens qui parlent avec intelligence sans être en campagne. Donc ça fait du bien d'entendre un petit peu des gens qui ne s'insultent pas, qui sont d'un niveau supérieur. C'est assez grave.
Christian Etchebest, qu'est-ce que vous faites le dimanche midi? Vous êtes au restaurant? Vous êtes en...
Je pense un petit peu. Ouais. Je bosse toujours, comme j'ai une brasserie qui est ouverte tous les jours. Donc
la cantine du Troquet.
Et où, ouais. Et où?
J'en ai une dans le 15e, pas loin d'ici.
6 dans Paris.
On en a 6 à Paris. On en a dans le 14e, dans le 6e. Une à Rungis.
D'accord.
Et puis Boulevard de Grenelle ici. Yes. Vous parliez de produits. Et ce que disait Thomas, c'est tout à fait vrai. C'est le produit, des fois, il se suffit à lui-même. Moi, je dis toujours.
Ouais.
Et c'est le choix du produit qui est très important. Et nous, moi, j'ai la chance d'avoir une affaire à Rungis. Donc, j'ai quand même bien le choix.
Voilà, et vous avez les matières premières à portée de main.
C'est important ce qu'il a dit,
c'est
Thomas.
C'est vraiment fondamental.
C'est le produit.
Je ne sais pas, mais... Donc nous, on est en tournée là en ce moment, on va finir bientôt, mais il y a un truc, c'est incroyable, quand on joue, on mange avant en général, parce que ventre affamé n'a point d'oreille, et puis on aime bien, ça pose un peu. Donc on n'emmène pas notre catering, tu sais, quand c'est vraiment une grosse tournée, peut-être avec mon père, on aura notre cantine qui va nous suivre, je ne sais pas. Mais là, on est acheté par des théâtres qui achètent notre spectacle, on vient. En général, c'est le théâtre qui fournit la cuisine, quoi. Voilà. Parfois, ils nous envoient au restaurant le midi, parfois juste le midi, le soir, on mange à la salle. Enfin bon. Et on a tous les cas de figure. Des fois, on a des trucs, on se régale. Et des fois, c'est pas très bon. Des fois, c'est des gens qui vraiment se décarcassent et c'est super bon. Des fois, c'est des gens qui se décarcassent et c'est pas terrible. Des fois, c'est des gens qui font rien, mais c'est super parce qu'ils nous envoient dans un super restaurant.
C'est ce qu'on entend de la part de tous les artistes,
effectivement. Mais la différence, quand on mange bien, avant un concert, on joue 50 fois mieux.
Et bien sûr.
Mais c'est...
Le
c'est
pouvoir de la table. Le
quoi.
Pouvoir
incroyable.
De la table.
Ça change le moral. Le moral, c'est fou, quoi. Et nous, sur la route, c'est hyper important.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Vous entendez ce joli son? Eh bien, nous revoilà en cuisine autour de Thomas Dutronc avec le chef Christian Etchebest au fourneau. Oui, ça frétille. Qu'est-ce que vous nous faites de beau, Christian Etchebest, là?
Petite Saint-Jacques, à peine poêlée. Attention, les Saint-Jacques, de ne pas trop les cuire. Pour vous, Thomas et Laurent, moi, j'ai fait mariner. Hop, tout simplement, huile d'olive, citron. J'ai
plein dans la période.
Voilà, pas trop cuit, surtout
la Saint-Jacques. Ah oui, on est en plein dans la saison de la coquille Saint-Jacques, d'octobre à mai.
Je vous ai fait vraiment la saison. Ce que vous avez dit, le produit... Et la saison.
On la pêche vraiment le long de nos côtes. Hein. Ça va de la Bretagne.
Elle n'est pas trop pêchée, elle réussit.
Non, parce qu'il y a une belle gestion des stocks, justement, la Saint-Jacques. On met des essaims un petit peu comme les huîtres, qu'on laisse grandir. Et comme c'est une gestion des stocks d'octobre à mai, ça permet au stock de se reproduire.
Et pourquoi ça s'appelle Saint-Jacques, en fait? Est-ce qu'il y a un rapport avec la période? C'est quand la Saint-Jacques? Je ne sais même pas.
C'est un rapport. Si, si.
C'est mon père, je devrais lui souhaiter sa fête.
Oui, c'est ça, c'est pour votre père. L'heure du déjeuner approche, mais on va remonter le temps, tiens, avec vous, Thomas Dutronc. Vous parlez de votre papa, il ressemblait à quoi les dimanches de votre enfance?
Écoute, j'allais tous les dimanches déjeuner chez mes grands-parents.
Paternels.
Ils habitaient à Paris, ils étaient rue de Provence. Mais après, ils ont déménagé parce que ma grand-mère a beaucoup trop fumé de cigarettes. Elle avait de l'emphysème, la pauvre. Elle ne pouvait pas trop marcher, se déplacer. Et bon, ils ont déménagé pour être plus près de nous. Et ils sont venus dans le 14e aussi.
dans une rue qui s'appelait la rue Couche. C'était un drôle de nom comme rue. Je sais. Mais enfin, ils étaient là et voilà. Et donc, on allait après déjeuner, c'était carrément à 200 mètres à pied. Donc, on y allait à pied.
Qu'est-ce qu'on mangeait alors chez, les grands-parents?
Ben, nous faisait de la viande avec des patates sautées. Et c'est drôle, elle faisait des pommes de terre Lunor, tu sais.
Ah, les fameuses qu'on trouve chez les traiteurs. Ah oui, c'est terrible, ça sous vide avec le. Ah oui.
Mais elle les faisait super bonnes parce qu'elle arrivait à les faire gratiner, tu vois. Il y avait vraiment.
Ah oui, elle les transformait alors.
Il y avait tout un croustillant qui était vachement bon. Elle avait tout le temps des super bonnes clémentines, j'ai ce souvenir-là, surtout vers Noël. Mais alors délicieuses, tu vois, tellement bon. Et puis, ouais, il y avait souvent mon grand-père achetait des rillettes. Parce que chez moi, ma mère, les rillettes, c'était carrément interdit, ou les pâtés, tout ça. Donc, c'était mon bonheur le dimanche, c'était de manger des rillettes, des charcuteries comme ça, trop bonnes.
Bah, comme on le fait ici avec le pâté en croûte de Christian Etchebest. Et puis, on va déguster cette Saint-Jacques qui est cuite avec en dessous une purée de betterave. On joue sur les contrastes terre-mer, en fait. Ah, hein, c'est ça, Christian.
Vous avez tout dit. C'est vrai.
C'est vrai que ça peut étonner comme ça, mariage.
Ah non, c'est très, très bon.
Bon, la betterave, ça passe bien. Oh là là. Les gens, ils aiment bien. On pense que la betterave, les gens, ils aiment pas. Mais en fait, si on la travaille un petit peu, la betterave, très crémeuse comme ça, je pense que c'est bon. La Saint-Jacques à peine cuite.
Un peu vinaigré aussi.
Un peu vinaigré, toujours un peu à la fin pour donner un peu de peps.
C'est extraordinaire. Là.
Et il y a une petite pâte de coin.
Ah.
Ah. Et je vous ai quand même râpé un petit peu de truffe. Hein. Vous ne le sentez pas trop, mais quand même, je vous ai râpé un peu de truffe.
Elle est jeune, c'est la truffe du Périgord.
Oui,
hein,
oui, c'est oui, ça, oui. C'est mon copain. Christophe Ménard qui me les envoie là. Bon, c'est un peu.
Ça marche bien. Bravo. On se régale à la cantine du Troquet aujourd'hui qui a délocalisé à la table du dimanche. Thomas Dutronc, papa et maman chanteurs, est-ce qu'ils vous emmenaient avec eux sur les routes le dimanche quand ils étaient en tournée? Vous parliez de vos tournées le dimanche.
Ma mère a arrêté de chanter quand elle avait 30 ans, juste avant que j'arrive, je crois, ou un petit peu avant. Et mon père, il a refait juste. Moi, je l'ai vu chanter la première fois en 90-91.
Oui, au Casino de Paris.
Donc là, je l'avais un peu suivi, mais ça a duré un an, tu vois. J'avais été un petit peu avec lui sur les routes. J'allais souvent voir mon père sur les tournages aussi, quand il tournait.
Thomas Dutronc, vous étiez très proche de Serge Gainsbourg. Vous avez passé des dimanches ensemble aussi, quand vous étiez jeune?
Il m'invitait de temps en temps à dîner, plutôt le soir.
Chez Marc Menaud.
Chez Marc Menaud, exactement. Ouais, c'était un délice.
Un de nos grands chefs qui nous a quittés il y a presque un an, effectivement. Et quels étaient vos souvenirs de table avec Gainsbourg? Ça a commencé très tôt d'ailleurs.
Mon père nous emmenait quand même de temps en temps dans des grands restaurants. Il aimait ça aussi. Donc j'ai toujours un petit peu connu vaguement ça. Mais chez Marc Menaud, je crois que j'ai un souvenir tout bête, mais c'est d'avoir mangé des très bons fromages avec des raisins ou des poires, ou tu vois, un espèce de mélange fruits-fromages comme ça qui est vraiment aussi, qui a une des bases extraordinaires qui marche tellement bien.
Il y a son fils qui avait.
Oui, son fils aussi qui a repris l'art du chromeski. Marc Menaud, effectivement, est devenu célèbre avec cette petite bouchée aussi, entre autres, qui est le chromeski. Qui est une bouchée sûr. Délicieuse. Et c'est vrai que ça marche bien, toutes ces histoires de pâtes de coin, de raisins et de fruits compotés ou enchetenés avec les fromages, Christian Etchebest.
Oui, complètement. Chez nous, dans le Pays Basque, bien sûr, c'est la confiture de cerise noire. La confiture de chez nous avec.
Ça marche avec bien fromage, avec quoi alors ça marche avec...
Fromage des Pyrénées de chez moi.
Le
Sourirati, la tome, là, bien pâte un peu dure ou molle comme on veut, mais avec confiture de cerise. Chez nous, on a été élevé depuis tout petit, moi, chez moi, avec mon père, dans la soule, il y avait toujours un pot de confiture de cerise. Donc on a cette habitude.
Et après, tu as aussi le vrai fruit, genre la poire.
Bien sûr.
Un vrai quartier de poire. C'est dur de trouver des bonnes poires quand même, je trouve.
C'est la saison là. Il y a les doyennés du comice, il y a les conférences, il y a la beurre et hardie.
Moi, j'adore celles qui fondent, tu sais, qui sont sucrées, fondantes et tout. Une belle comice. Souvent, les assiettes, elles sont dures comme du.
Oui, mais la poire. Mais on peut l'acheter dure, la poire. Elle continue à mûrir. C'est un des rares fruits qui va continuer à mûrir.
Pour de vrai, quoi.
Oui, quand on l'achète dure. Ouais. Absolument. Ce qui n'est pas le cas des fruits à noyaux, par exemple, comme les pêches et les abricots, si on les achète trop tôt avant la maturité. Vous prenez une poire, par exemple, que vous taillez très finement avec du roquefort par-dessus et quelques grains de café que vous allez râper. Là, vous avez tout un 3-en-1. Vous avez poire, dessert et café dans la même assiette.
Ouais, le roquefort, c'est bien. Et puis le jazz, pas trop fort, c'est bien aussi.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 autour de Thomas Dutronc à la table du dimanche. Le dernier concert de la tournée Frenchie, c'est mardi aux Folies Bergères, Thomas. Oui. Et l'album Frenchie que j'ai dans les mains, ici sur notre plan de travail en cuisine. L'album Frenchie en édition de luxe. On va écouter un duo avec votre papa tout à l'heure autour du petit jardin.
L'idée de ce disque, c'était pendant le French bashing, tu sais. Donc
Je ne sais plus ce qu'on a fait ou dit aux États-Unis, ça s'est mal passé. Trump nous a fait un boycott des produits français.
Ah bah oui,
ça a duré un mois ou deux.
Le foie gras, le vin, tout
mais
ça.
En fait, oui. On se rend compte que la France, on se plaint beaucoup en France et c'est comme ça, ça fait partie de notre ADN. Et mon rôle n'est pas de porter un jugement sur quelle est la mentalité en France. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la France fait rêver le monde entier. Pour la haute couture, le parfum, mais aussi le fromage, le vin,
la
gastronomie. Mais aussi la couverture sociale chauffante, mais aussi, je ne sais pas, plein de choses, quoi, la beauté des paysages. Enfin, c'est vraiment un pays qui fait pour la douceur de vivre aussi, la douce France. Il y a un peu ce côté-là quand même, malgré tous les problèmes qui peuvent exister, c'est sûr. On ne se rend pas compte que dans plein d'autres pays, c'est beaucoup plus violent, beaucoup plus rude. Et quand, par exemple, aux États-Unis, on dit French kiss, c'est le baiser...
sur la bouche.
Voilà, sur la bouche, un petit peu plus poussé même.
Oui, c'est avec la langue.
Voilà, c'est ça. On parle des French fries aussi, pour les frites, c'est les French fries. Alors, il y a débat, est-ce que c'est belge, est-ce que c'est français ? Moi, j'ai cherché un peu sur Internet. Il y a même un historien belge qui a déclaré que c'était né à Paris. Donc,
bon. Oui, les pommes de terre Pont-Neuf sont nées, effectivement, sous le Pont-Neuf. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça, des frites qui sont taillées épaisses d'un centimètre sur un centimètre. Et il y a un grand débat entre la Belgique et la France. Mais oui.
Bon, donc, tout ça pour te dire que on s'est dit, on va prendre des grands musiciens français, pas des super musiciens de studio, tout ça. Non, des grands musiciens. L'idée, c'est d'abord de partir avec mon ami Rocky Gresset à la guitare, qui est manouche et qui est un des plus forts de sa génération, incroyable, qui a un niveau vraiment international et un style qui est vraiment français, un peu inspiré de jazz américain, mais aussi de Django Reinhardt. Et donc, l'idée, c'était de reprendre des mélodies françaises qui ont fait le tour du monde et d'inviter dessus des chanteurs internationaux. Alors, on a eu Iggy Pop, Diana Krall, Billy Gibbons, le chanteur, leader, guitariste des ZZ Top. On a Yoon Sun-nan, chanteuse coréenne extraordinaire, Jeff Goldblum, Ceci Kent, qui est une chanteuse de jazz, qui est raffinée, qui est douce, qui chante incroyablement. Elle est Reinhardt, qui n'a aucun rapport avec Django, mais qui a gagné une émission genre Nouvelle Star un peu aux États-Unis, que j'ai croisée à Paris, parce qu'il m'avait invité sur un projet un peu décalé, un peu swing, machin. Elle est extraordinaire, elle a des dizaines
incroyable.
De millions de vues sur Internet.
Casting international.
Et on les a fait venir chanter avec nous, et c'était super. Donc après, on a fait des bonus franco-français avec Clara Luciani, Philippe Catherine, Jane Birkin, Étienne Dao, Eddie Mitchell et mon père, des petits bonus vite fait comme ça, qui sont en plus sur le disque là. Mais
on va écouter le duo avec votre père dans un instant.
C'était l'idée de se dire, putain, en France, on a aussi des musiques qui ont fait le tour du monde. Genre, comme d'habitude, My Way, en la version américaine.
De Claude François, oui.
C'est la chanson qui, au monde, a généré le plus de droits. Plus qu'une chanson des Beatles, plus que Michael Jackson. C'est quand même incroyable, grâce à Elvis Presley.
Mais Becco était beaucoup repris aussi à l'étranger. Je t'appartiens de Becco a été repris par Elvis Presley.
Alors, on a fait un premier disque. Moi, j'ai hâte de faire un volume 2, parce qu'on n'a pas repris Michel Legrand, parce qu'on a... Ni Que reste-t-il de nos amours de Trainet, on a pris La mer de Trainet, mais Que reste-t-il, c'est ma chanson préférée. Ni, comme tu dis, Becco aussi, qui a eu des succès incroyables. On a vraiment de quoi faire un deuxième volume incroyable qu'on fera un jour, je ne sais pas quand.
Vous avez raison, il y a un parallèle entre notre gastronomie et notre musique, parce qu'on a de beaux titres qui s'exportent et on a de belles recettes qui s'exportent aussi à l'international. Christian Etchebest, ce n'est pas vous qui allez dire le contraire, qui est un apôtre de la cuisine classique traditionnelle avec votre cantine du Troquet à Paris. Vous, originaire du sud-ouest. De quel sud-ouest ?
Ah, moi, je suis basco-bernais. Quand le client il est basque, je suis basque. Quand il est bernais, je suis bernais.
Alors, le plat du jour que vous êtes en train de commencer pour nous, racontez-nous. On s'est régalé déjà avec cette entrée autour de la Saint-Jacques et de la betterave.
Moi, je me suis renseigné. Je savais que Thomas, il aimait les classiques. Donc, je lui ai fait un plat classique. C'est un casier de veau à la broche, purée truffée, avec un petit jus à la truffe, tout simplement. Et j'ai pris la truffe, on va râper. Ça va être un plat classique du dimanche. Comme il disait tout à l'heure, il aime le poulet. Voilà, c'est le plat du dimanche. Je vais servir sur un plat carrément au milieu de la table et chacun se sert. Ça me fait plaisir de vous faire ça.
J'adore. Thomas Dutronc, on en parle depuis 11 heures. Vous allez partir à partir du mois d'avril sur les routes avec votre papa en tournée. Dutronc et Dutronc, qu'est-ce que ça représente pour vous de partager comme ça la scène avec votre père pour une tournée qui n'est pas une petite tournée d'ailleurs, hein.
J'ai du mal à réaliser encore. J'ai hâte d'être sur scène avec lui. C'est vertigineux. Moi, j'ai grandi en écoutant ses titres, ses chansons, puis avec lui. Je l'aime tellement. C'est mon papa.
On l'aime tellement.
On l'aime tellement. C'est ça. Moi, je l'aime. En plus, il a une espèce de... C'est vraiment tellement un personnage énigmatique et charismatique et par moments compliqué, mais il a une telle tendresse derrière tout ça, une telle pudeur. Et il n'y en a qu'un comme lui. Et donc, C'est assez extraordinaire de partager ces chansons.
On en reparlera de la tournée du Tronc et du Tronc sur les routes.
Je suis à fond. J'ai tellement envie que ce soit génial.
Et nous
parce que
nous
là,
aussi, on est à fond.
Il n'y en aura qu'une.
On a envie de venir. On va venir. Je peux vous dire que je sais que les premières dates sont complètes, comme le Casino de Paris, par exemple. Alors, je vous présente quelqu'un qui est en tournée aussi chaque semaine, mais lui, c'est dans les restaurants. C'est notre gastronome du dimanche, Emmanuel Rubin. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Thomas Dutronc. Alors, Thomas, on connaît votre amour pour l'île de beauté. Emmanuel Rubin va nous parler Corse. Mais grâce à une recette particulière, une recette bonapartiste, on pourrait dire.
Vous savez qu'il y a trois grandes familles en Corse.
Dites-nous.
Les Bonaparte,
oui.
Les Rossi et les Dutronc.
C'est ça.
Alors avant que le bicentenaire de la mort de l'empereur ne s'achève à la fin de l'année, j'ai voulu raconter l'empereur vu par le petit bout de la fourchette avec une recette emblématique du terroir culinaire français. Mais une recette qui serait née, dit-on, au soir d'une bataille, c'est le poulet à la maringo.
Ah, qui est devenu un veau à la maringo, et ça tombe bien, en cuisine du veau avec Christian Etchebest.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Nous voilà de retour à la table du dimanche. Si vous avez raté le début, nous sommes ensemble depuis 11h. Vous retrouverez notre belle entrée avec le pâté en croûte de Christian Etchebest en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. Comment cuire les Saint-Jacques et les accompagner d'une belle purée de betterave, pareil, c'est dans le podcast. Dutronc et Dutronc, on le disait, en tournée dès avril prochain. Mettez-nous dans les coulisses, tiens, un petit peu. Vous avez dû partager de jolis souvenirs de table avec votre papa.
Écoute, on allait souvent dans des très bons restos. Et on arrivait à, je sais pas, midi, on repartait des fois à 19h30, tu vois, ou même des fois on redînait dans le truc. C'est-à-dire que ça dégénérait en apéritif avec les cuisiniers et les serveurs une fois que le service était fini, puis on redémarrait, on disait bon, qu'est-ce qu'on va manger là finalement, tu vois.
Et qu'est-ce que vous aimiez manger avec lui? Est-ce qu'il y a des plats qui vous rassemblent et qui vous permettent de vous retrouver?
Écoute, là, comme ça, j'ai un souvenir. On allait tout le temps à plaisir dans un endroit qui s'appelait la Maison des Bois, qui s'appelle toujours d'ailleurs, c'est un super resto, la Maison des Bois à plaisir. Et je sais que le fils a ouvert un super restaurant à Versailles aussi. Puis la Maison des Bois, j'ai un souvenir, je sais pas, il y avait tout le temps, il dit, en plus de la carte, nous avons le marbré aux asperges. Et c'était vachement bon. Qu'est-ce qu'il y avait?
Le marbré.
Il y avait du canard de Barbarie. Tiens, il y avait du canard de Barbarie.
Voilà, ça c'est un plat du dimanche.
Il faisait un pigeon comme ça.
Ça donne envie là. Ça donne envie, moi, tout ça.
Un beau
ça,
canard ça de Barbarie, bien c'est sûr. Votre enfance, Christian Etchebest.
Ouais, bien sûr, mais tout ça, c'est le produit là, quand il me parle de pigeon, des asperges.
Ce qui était génial, c'est que j'avais 20 ans et je pouvais manger ça, plus dessert, plus machin, et je grossissais pas quoi.
Tiens, le canard de Barbarie qui fait partie des canards qu'on a un petit peu mis de côté, qu'on a délaissé, Christian Etchebest, un mot pour nos auditeurs, pour le cuisiner en cocotte, au four?
Au four, non, mais là, le pâté en croûte qu'on a fait, c'est au canard de Barbarie. Hein.
Mais si on veut cuisiner le canard de Barbarie, on en
fait en cocotte, on le fait rôtir, on le marque bien, on le fait rôtir, après on met un peu de carotte, un peu d'oignon. Et après, on le laisse cuire tout doucement.
Combien de temps?
Ça va vite, ça va. Suivant comment vous l'aimez, si vous l'aimez rosé, à point, bon, vous voyez. Le mieux, c'est de toucher un petit peu, là. La cuisine, ça se touche.
Ah oui.
Un temps exact, si je dis un temps exact, tout le monde va me dire, ah non, il m'a
dépend des
minutes.
Fours aussi.
Et il y a l'expérience aussi, du coup.
Il y a l'expérience. Non, vous touchez
c'est
toujours.
C'est dur de réussir un plat nouveau la première fois qu'on le fait ou pas? Ou avec
oui,
l'expérience
tu... bien sûr. Ouais. Non. On ajuste toujours. On goûte, ça va pas, on rectifie.
Ouais.
Le canard Barbarie, voilà, on met un peu de carotte, un peu de navet si c'est la saison, et on laisse cuire tout doucement, bien rôti. On arrose bien, du beurre dessus.
Comment tu ferais, question
c'est simple la cuisine.
Comment tu ferais juste, par exemple, un truc tout con, des pâtes au roquefort, par exemple. Comment tu les ferais? Moi, une fois, j'ai lu zeste de citron. Et vachement, on en a mis un peu, c'était
sûr,
vachement sympa.
Parce que ça va donner un peu de peps à la fin.
Ouais, de la fraîcheur.
Toujours un peu de fraîcheur et de peps. En fait, à la cuisine, il faut qu'il y ait du peps à la fin. Si vous faites un plat et il n'y a pas de peps, vous allez dire c'est bon, mais ce n'est pas exceptionnel. La cuisine, c'est du peps. C'est le produit. Et donner un peu de peps dans sa cuisine.
Thomas Dutronc, vous venez nous voir avec Frenchy, votre album, l'intégrale. On parle de la tournée aussi avec votre papa à partir du mois d'avril. Alors, votre père aussi est un vrai Frenchy. Hein. À l'époque où ses compères s'appelaient Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, lui est resté Jacques Dutronc. Et Lucien Maurice,
oui,
le patron d'Europe 1, a dit à propos du premier titre de Dutronc père, c'est absolument génial. Et il a poursuivi, ce qui est génial, c'est d'avoir trouvé Jacques Dutronc comme nom, c'est très fort.
Ouais.
Mais non, c'était pas un pseudo.
Et c'était pas un pseudo. Oui, à l'époque, c'est l'époque où tout le monde copiait les Américains. D'ailleurs, on continue un peu avec, on a, même si on a notre style un petit peu de slam et de rap, on a quand même pas mal copié certaines choses aujourd'hui venues du rap américain, quoi. C'est vrai que bon.
Thomas Dutronc, on est en cuisine avec Christian Etchebest. Je vous propose de prendre nos micros et nos verres et d'aller retrouver Emmanuel Rubin qui nous attend à table à la salle à manger, parce que vous le savez, si vous êtes des fidèles de l'émission, nous ne sommes pas en studio, nous sommes dans une vraie cuisine avec une vraie salle à manger. Installez-vous, Thomas Dutronc. Et Laurent Balesta nous retrouvera tout à l'heure. Laurent Balesta, pour les amateurs, c'est un photographe naturaliste. Il vient d'avoir un prix exceptionnel, un prix prestigieux avec une photo autour du Mérou.
Et non pas un photographe naturiste. Et
non, c'est pas pareil. Mais on peut être les deux, hein, en même temps, je me dis. Alors Emmanuel Rubin, revenons à cette histoire de recette traditionnelle française qui a pris ses origines grâce à un grand nom corse, Monsieur Napoléon Bonaparte. Racontez-nous le veau Marengo par le petit bout de la lorgnette et de l'histoire.
Exactement. 14 juin 1800, campagne d'Italie. Et on ne sait pas très bien si c'est à la veille de la bataille ou au soir de la bataille. Bonaparte, parce qu'il n'est pas encore Napoléon, il n'est que général, il a l'âme victorieuse. Il sent que la bataille est gagnée et donc il a l'estomac vorace. Il va demander à son cuisinier, qui s'appelle Dunan, de lui préparer une volaille. Il adore la volaille. C'est pas un fin gourmet, mais c'est un gros mangeur, surtout les soirs de bataille. Et le pauvre Dunan, eh bien, c'est misère de l'approvisionnement. Il n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Il va trouver une volaille, et là, il va improviser. On cuisine beaucoup au beurre à l'époque, et lui, il n'a pas de beurre. Donc, il prend de l'huile d'olive. On est en Italie. Il ajoute quelques tomates, quelques champignons, du vin blanc. Napoléon déguste, il trouve ça formidable. C'est l'autre victoire de Marengo, parce que le poulet à la Marengo vient de naître.
Ça, c'est le beau côté de la légende, effectivement, parce que est-ce que c'était véritablement un poulet ? Rien n'est moins sûr.
Rien n'est moins sûr, et puis surtout, la légende elle-même n'est pas certaine. Vous savez, avec Napoléon, hein, la vérité, la légende, il s'en arrange toujours un peu, et l'histoire s'en est beaucoup arrangée. D'abord parce que cette histoire, elle date de 1858, soit 58 ans après les faits, donc elle est peut-être très peu probable. Ce qui est plus probable, en revanche, c'est qu'au lendemain de l'annonce de la victoire de Marengo, à Paris, il y a un restaurant qui est très coté, qui s'appelle les Trois Frères Provençaux, et le chef a une spécialité de frito. Le frito, c'est faire justement frire les belles chairs. Il va prendre un poulet, il va le frire, et il va, en hommage à cette victoire, le baptiser poulet à la Marengo. Et là, tous les gourmets, tous les patriotes de Paris vont ramener la recette vers sa postérité, recette de propagande, donc recette de postérité, et qui va conquérir très rapidement les estomacs, les appétits et les chairs, parce que le poulet à Marengo va devenir le veau à la Marengo et même le lapin à la Marengo.
On a parlé de cheval au départ aussi. C'était une légende, ça. On racontait que c'était un cheval qui avait été tué sur un champ de bataille et qui avait donné naissance à ce plat.
Ça participe de la légende. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune preuve. Et Napoléon a aimé, de toute façon, laisser courir comme ça les petites histoires. Il savait que ça participait de la postérité de l'aigle.
Alors, racontez-nous cette recette traditionnelle du poulet ou du veau, alors.
On fait le poulet. On fait dorer des beaux morceaux de volaille en cocotte à l'huile d'olive. Ensuite, dans le même temps, vous faites blondir un oignon coupé en lamelles, trois tomates grossièrement tranchées. Il ne faut pas oublier qu'on a un soir de bataille, on n'a pas beaucoup de temps. Ben du sel, des herbes, on cuit quelques minutes à feu dû, on ajoute au poulet, on attaque à d'or la sauce. La sauce, un quart de litre de vin blanc, cuillère à soupe de farine, demi-verre d'eau.
Ça, c'est bien.
On verse dans la cocotte, on laisse mijoter une heure. À ce moment-là, on adjoint les champignons de Paris émincés, on attend encore quelques instants de cuisson. On déguste et au creux de ce plat, eh bien quoi, deux siècles de légende vous contemplent.
Eh oui, maintenant le feu avec du veau, c'est bien dit, c'est bien raconté. Merci Emmanuel Rubin.
Vous saviez comment je le cuisine.
Et dans le veau Marengo traditionnel, il y a même des petits morceaux de pain de mie qui sont toastés en forme de cœur, trempés dans un petit peu de persil. C'est un petit côté kitsch. Mais ça, c'est la version traditionnelle.
Effectivement, et je vais vous dire, quand on apprend, nous, à l'école, quand on a appris, moi, il y a 35 ans à l'école, on faisait ces petits cœurs en pain de mie, dans un beurre clarifié, et on trempait dans le persil. Et c'est pour décorer. C'est vraiment le classique, le classique. Mais je suis sûr que moi, il y a des brasseries parisiennes où ça doit exister encore.
Et puis, c'était l'occasion de rendre hommage aussi à Napoléon Bonaparte, parce que la Corse, c'est un refuge familial qui vous tient à cœur, Thomas Dutronc. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas ? C'est quoi l'ambiance ? Vous faites des petites tables ? Vous vous baignez ? Vous faites la sieste ?
Ben oui, quand on peut. Non, c'est un pays qui est merveilleux. Il y a des gens merveilleux aussi là-bas. On prend le temps de vivre. On voit vraiment les saisons.
Il paraît en Corse que la baignade est une activité que vous appréciez beaucoup. C'est quoi l'art de la baignade selon Thomas Dutronc alors ?
On fait des blagues comme quoi il y a des requins partout depuis longtemps, mais on se baigne dans un coin un petit peu sauvage où il n'y a personne. Tu vois, il n'y a pas trop de monde, même en plein été. Et à l'époque, il y avait un ami qui est mort, le père d'une amie sur la plage, comme ça, qui nous a dit hyper sérieusement, là-bas, à la pointe, là, on dit qu'il y a des accidents de plongée. Mais moi, je n'y crois pas trop. Il y a des peaux bleues tapis à 25 mètres. Et le mec était... Donc, depuis ce truc-là, on rigole de ça en disant, bon...
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire. Nous revoilà en compagnie de Thomas Dutronc à la table du dimanche avec Christian Etchebest en cuisine. Qu'est-ce qu'on entend, Christian? Quelle est cette jolie musique de rissolage?
Là, c'est le casier de veau là, que je suis en train d'arroser dans le sautoir. Je fais beurre mousseux et là, je suis en train de l'arroser parce que c'est une belle pièce. Et après, je vais découper. Je suis en train de finir le jus tout simplement à la truffe et je vais monter la purée au beurre. Une bonne purée de pommes de terre comme on aime. Je pense que Thomas sera content de moi.
Et racontez-nous comment vous l'avez cuite, cette belle pièce de casie qui est un morceau d'une tendreté exceptionnelle. Hein.
C'est du veau de Mauléon, de chez moi, que je fais venir du Pays Basque. On l'a mis à la rôtissoire, on l'avait mis un peu à mariner avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de thym, un peu de laurier, de l'ail écrasé. On l'a laissé mariner un petit peu. Et après, on le met à la broche tout simplement, 25 minutes, 20-25 minutes. Tout simplement, ça tourne et donc ça fait une petite croûte dessus. On le sort bien rosé, je l'ai laissé reposer. Et là, je le suis en train de le finir. Je vais émincer un petit jus à truffe. J'ai récupéré le jus de cuisson du repos que j'ai mis dans le jus. Une bonne purée truffée.
Thomas
nous dira si j'étais bon ou pas bon.
Je suis pas très inquiet. Vous retrouverez la recette sur europe1.fr. Même adresse hein, pour vous abonner à la newsletter que vous recevrez tous les dimanches. Thomas Dutronc, vous venez nous voir donc avec cet album Frenchy, l'intégrale. On parle musique justement. Il y a une tradition à cette table du dimanche, Thomas Dutronc. Je vais vous faire écouter des chansons qui ont croisé votre chemin et vous me dites ce qu'elles évoquent pour vous.
D'accord.
Ça vous va? Eh bien, on est parti. Tiens.
Bah Django, c'est carrément au circuit. Il y a plein de grands guitaristes, il y a plein de choses. Mais lui, c'est carrément inhumain, quoi. C'est-à-dire que de jouer aussi bien avec, en plus, il avait une infirmité, sa main gauche avait brûlé. De jouer aussi bien des notes jamais les mêmes, d'être tout le temps pile là où il faut dans le rythme, dans la trouvaille et tout ça, c'est un autre niveau, quoi. C'est-à-dire que moi, je le compare pas à Jimi Hendrix, je le compare plutôt à, je sais pas, moi, Bach ou Mozart, quoi. C'est plutôt, c'est ça, quoi. Il est très, 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 très fort. Je sais pas si les Français sont assez conscients de. Justement, de la chance qu'on a de l'avoir dans le patrimoine. C'est un musicien qui influence le monde entier. Hein.
Vous et parlez qui continue de
Django au Japon, aux États-Unis. Il est très connu, mais en France, pas assez.
Un autre chanteur-compositeur qui vous aurait influencé, apparemment.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Bah oui, Brassens, c'est extraordinaire, c'est son centenaire là. Mais
c'est ça, vous avez mis un mot sur Instagram en disant qu'il aurait eu 100 ans le 22 octobre.
Bah oui. J'ai grandi avec, dans ma tendre enfance, on va dire plutôt avec des chansons de variété française. C'était mes deux parents, c'était Eddy Mitchell, Alain Souchon, Véronique Sanson. Un petit peu d'AO après, plus tard, mais après quand j'étais ado, j'ai écouté des musiques de mon époque, donc la musique des années 80, 90. Et d'un seul coup, Brassens, ce qui m'a plu, c'est que pour tuer le père et la mère, si vous voulez, j'ai eu besoin de Jean Balèze, quoi, du niveau de Django ou Georges Brassens, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus forts, on va dire, ou je sais pas, donc moi ça me fait du bien, quoi. Et Brassens, sa particularité, c'est que c'est sa grande bonté aussi, sa lumière, on va dire. Moi, j'étais pas forcément très bien dans ma peau à une période de ma vie à 18 ans comme ça. Et lui, ça m'a vraiment aidé. Je trouve que c'est la différence avec d'autres immenses artistes comme Brel ou Barbara ou je sais pas. Moi, le sourire et la tendresse qu'il a amené dans ma vie à ce moment-là, ce rayon de soleil qui m'a chauffé le cœur. Ses mélodies sont extraordinaires. La preuve, on s'en rappelle de plein. Il y en a des très fines, des très puis à la guitare. Ça va vite. C'est au niveau arrangement. Là, c'est le basique, c'est contrebasse guitare. Là, au niveau arrangement, c'est sûr, il y a pas grand-chose. Mais justement, ce style inimitable, c'est extraordinaire.
Un dernier titre avant d'accueillir notre invité Laurent Balesta qui va nous retrouver à table.
Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil.
C'est dans les bonus de Frenchy.
Exactement, dans votre album.
On a chanté en duo le premier bonheur du jour de ma mère à l'époque et avec Clara. Oui,
voilà, une reprise de votre maman avec Clara Luciani.
Finalement, ma mère, il y a plein de chansons que je ne connais pas. Elle en a tellement fait, elle a tellement travaillé. Et puis en plus, elle cachait tous ses titres.
Vous continuez à en découvrir.
Ses premiers titres, un petit peu yéyé entre 62 et 64, elle les cachait parce qu'elle n'en était pas très contente. Donc chez moi, il n'y a jamais eu ces disques-là. Donc je connais moins bien cette période. Je connais plus fin années 60, début 70, j'adore. Elle est passionnée de chansons et j'adore. Et souvent, je fais écouter, mais depuis que je suis ado, quand je faisais des soirées comme ça avec des potes, je faisais découvrir des trucs parce que personne n'écoutait. Moi, mes potes écoutaient, je ne sais pas, du James Brown ou du...
du reggae ou du je sais pas quoi ou les Pink Floyd, mais ils n'allaient pas écouter Françoise Hardy, donc je leur faisais découvrir comme ça toujours un truc. J'aime bien quand j'ai bu un coup qu'on écoute de la musique, je mets toujours un morceau
de la famille.
Ouais, de ma mère en tout cas, ouais.
C'est l'heure d'accueillir un nouvel invité à la table du dimanche. Il va nous emmener à la découverte de deux univers, la photographie et la plongée sous-marine. C'est l'heure d'accueillir Laurent Balesta. Venez entrer, Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. Bonjour. Installez-vous. Enchanté.
Je suis ravi.
Alors, on voulait vous inviter parce que l'univers sous-marin nous intrigue. Il intrigue les auditeurs et il intrigue Thomas Dutronc, ici présent. Un grand bravo pour ce prix. Alors, je vais mal prononcer.
Mais je vous laisse le faire quand même vous seul.
Un accent anglais déplorable. Le prix Wildlife Photographer of the Year, décerné par la BBC et le Musée d'Histoire Naturelle de Londres. Bravo. Pour une photo exceptionnelle que vous avez mis beaucoup de temps à pouvoir saisir. Une photo concernant un poisson qui a un rapport lointain avec la gastronomie.
Sauf qu'en France, il est interdit d'être pêché et commercialisé aujourd'hui.
Mais dans les îles, on en mange, c'est le mérou.
Racontez-nous
cette photo.
Cette photo, elle est exceptionnelle parce que ce lieu est exceptionnel. Voilà, il faut bien remettre le contexte.
En Polynésie.
Oui, c'est un endroit qu'on a eu là une chance incroyable de tomber dessus, nous et pas d'autres. Il y avait cette rumeur de ce rassemblement de mérou, ça c'était connu. Puis je crois que ce qui a plu aussi... c'est que ce nuage d'œuf, il a une forme de point d'interrogation et qu'il y a une symbolique qui est sympa.
Oui.
Ouais, c'est-à-dire que déjà, très concrètement, autour même de ces mérous-là, ce point d'interrogation, c'est que chacun de ces œufs, il a seulement une chance sur 1 million de devenir un adulte qui viendra se reproduire là à son tour. Et c'est le seul endroit à ce jour où il se reproduit comme ça. C'est son dernier grand refuge.
Europe 1. La table du dimanche. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être des nôtres. Si vous êtes là depuis 11 heures, on se régale. C'est Laurent Balesta, notre invité, photographe naturaliste, qui vient de goûter la Saint-Jacques, cuisinée et marinée, version crue, comme ça, avec une belle purée de betterave. Ça vous parle?
Ah, moi, je ne sais pas si ça me parle, mais ça me plaît. Hein.
La table du dimanche est dressée aujourd'hui autour de Thomas Dutronc. Il est venu nous voir avec son album Frenchy. La tournée Dutronc et Dutronc à partir d'avril sur les routes. Et Laurent Balesta, que vous venez d'entendre, nous rejoint avec un beau prix, lauréat du prix du photographe de l'année par le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. On parle photo pour que nos auditeurs imaginent bien. Effectivement, vous avez eu un prix pour cette photographie qui représente la ponte des mérous en Polynésie, dans les eaux profondes. On est à quelle profondeur?
Les mérous et les requins en Polynésie, ce n'est pas très profond, c'est entre 20 et 30 mètres. Donc c'est vraiment un truc qui est relativement accessible à tous.
Ouais.
Sauf que les événements majeurs, c'est-à-dire que voir les animaux, voir ces requins, voir ces mérous, c'est effectivement à la portée de tout le monde. Sauf que leur scène de vie, leur comportement... Ouais. Le hasard, le fait que ça se passe dans des conditions qui, là, deviennent plus difficiles d'accès. Donc, c'est quand même fou que ce truc qui peut paraître inaccessible, que mon équipe et moi aurions découvert, c'est à côté d'un village, à côté de bateaux qui portent des plongeurs touristes. Et il suffit juste de changer le curseur de à quelle heure on plonge, dans quelles conditions on plonge, et tout à coup... Un autre monde est là. Quoi.
Et vous êtes resté combien de temps sous l'eau pour cette photo?
Je ne sais pas, vous voulez parler de la plongée de 24 heures?
Oui, c'est ça. Oui.
Alors, c'est pas cette plongée de 24 heures qui m'a permis de faire cette photo. Mais cette plongée de 24 heures, c'est la première année que nous sommes allés là-bas. Elle m'a surtout ouvert l'esprit, parce qu'en passant 24 heures à leur côté, que ce soit les mérous et les requins qui leur courent derrière, ça m'est arrivé de suivre un couple de mérous pendant... presque toute la journée, du matin jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher, je ne les ai pas lâchés juste pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient dans toute la journée. Et ce qui est paradoxal, c'est que tous les animaux en général passent leur temps à économiser leur énergie. Et là, pendant cette très courte période, il y a une dépense d'énergie qui est colossale.
Alors moi, ce qui m'intéresse, et j'imagine que Thomas aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant 24 heures? Comment on s'alimente? Comment on boit?
Je sais exactement ce que j'ai mangé, parce que dans mon équipe, il y a deux Suisses qui m'avaient ramené un gruyère affiné de très haute qualité.
Ah ouais.
Donc ça, c'était pas dégueu. Dans l'eau salée, du gruyère très salé aussi, ça allait très bien, ça passe. Après, les bananes, c'était déjà moins agréable dans l'eau salée. Mais ça fait bien. Après, c'était un peu symbolique. Je me demande si j'ai pas mangé, surtout pour la caméra qui me filmait, que pour vraiment un manque de calories. Ce qu'il faut, c'est boire. Voilà. Donc j'avais des camelbags, et puis ça, on enlève son embout, on met la paille, Et puis on boit, là, il faut boire énormément pour diluer tout ce gaz qu'on est en train d'emmagasiner pendant 24 heures et qui est susceptible de provoquer un accident de décompression. Voilà.
Vous avez aussi réussi, je crois, à photographier le plus vieux poisson du monde. On peut même parler d'un poisson fossile.
Et en fait, il faudrait dire ni un ni l'autre. Parce alors, que plus vieux poisson du monde, en même temps, celui qui était en face de moi, ce poisson-là, oui, ouais. Il avait sans doute le même âge que moi. Hein. Ouais. Voilà, peut-être un peu oui, plus.
C'est voilà. Pas le requin du Groenland.
C'est surtout un poisson qui appartient à une famille que l'on croyait disparue depuis 65 millions d'années.
C'est le sélocanthe, c'est ça ?
Voilà, le sélacanthe, ouais. Qui est appelé localement Gombessa. J'ai même donné ce nom-là à toutes mes expéditions parce qu'il symbolise tellement ça, le mystère du monde sous-marin, le défi de plonger pour aller les voir.
Ça vous fait rêver, ces exploits, Thomas oui, Dutronc ?
On est vraiment dans une autre dimension, effectivement, au début des temps. Alors, on est dans un autre monde et on voit des choses, des animaux sous-marins de tellement de sortes. C'est vraiment extraterrestre, quoi. Mais puis je voulais vous poser une question. J'ai entendu parce qu'on rigole avec tous les mystères, les requins, les trucs comme ça. Mais j'avais entendu parler du mystère de Djibouti. Alors c'était
qu'est-ce que c'est ?
Il y a cette rumeur qui dirait que le commandant Cousteau était remonté d'une plongée dans un endroit que je n'ai jamais visité et qui est très étrange parce que vous savez, c'est Djibouti, on est au sud du grand rift, de ce qui pourrait être une grande ouverture de l'Afrique dans quelques millions d'années.
Oui, il y a une faille.
C'est une plongée qui est très étrange. On est dans une faille et la rumeur dit que Cousteau est descendu là à des profondeurs incroyables, peut-être avec sa soucoupe plongeante de l'époque, qu'il est remonté en disant « L'humanité n'est pas prête à voir ce que j'ai vu.
Voilà.
On doit taire ce lieu. »
C'est génial, cette voilà.
Ah oui, mais honnêtement, j'ai jamais... Pourtant, je m'intéresse à son œuvre, évidemment. J'ai jamais
une cité engloutie
de ce témoignage-là. C'est jamais que reporté.
Bah, c'est l'heure de revenir sur Terre. Tiens, avec notre veau élevé sous la mer. Alors, quand je parle de la mer, ce ne sont pas nos fonds marins, mais c'est sa maternelle, un joli veau de Montléon, apporté et cuisiné par Christian Etchebest. Oh là là, il faut décrire ce plat. Qu'est-ce que
magnifique,
vous dites, Christian ?
Magnifique.
Pour moi, ça, c'est un plat de dimanche, qu'on met au milieu de la table.
Exactement.
Voilà. On va bien déjeuner chez toi, Lille.
Moi, j'ai écouté Thomas qui m'a dit qu'il aimait ses plats en sauce, un peu quoi, pas en sauce, mais des pièces entières. Donc voilà. Une petite purée de pommes de terre.
Oh, ça, c'est beau.
Il y a du beurre, il y a tout ce qu'il faut. Et je vais frapper un peu de truffe quand même.
Truffe du Périgord. Ce sont les premières. Vous avez gentiment apporté de cette belle région. Je le dis à nos auditeurs, cher Christian Etchebest, si on n'a pas de truffe, on peut refaire cette purée avec des trompettes de la mort qu'on aurait séchées, par exemple, et qu'on va mettre à l'intérieur de la purée. Vous confirmez, Christian ?
Oui, c'est bien, c'est une bonne idée, bien sûr.
Hein, ça marche
pas
mal,
piquer, quoi.
Non, mais la purée, après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut râper du fromage, du parmesan, on peut faire ce qu'on veut avec une bonne purée de pommes de terre.
Là-bas, c'est qu'elle soit bonne, la purée, qu'elle soit crémeuse, qu'elle soit bonne, qu'il y ait du beurre. Après, vous râpez ce que vous voulez dedans. Faites-vous plaisir.
Laurent Balesta, quel genre de mangeur vous êtes ?
Après une plongée, je dévore. Hein. Après la plongée de 24 heures, je vous dis pas.
Mais avant, on fait attention à ce qu'on mange, j'imagine, avant de descendre.
Il faut prendre des forces, quoi. Voilà. Quand on faisait ces plongées à saturation en Méditerranée, là où on est resté longtemps enfermé, c'était des plongées où on dépensait une énergie dingue. On sortait de là au bout de nos forces. Il fallait surtout des calories, hein, j'avoue que voilà. Et il fallait des cuisiniers qui savent rehausser le goût. Parce que quand on est dans ces univers à saturation, il n'y a plus que 3% d'oxygène dans ce qu'on respire. Et donc, le goût et l'odorat sont énormément altérés. Alors, on a l'impression que les plats manquent de saveur. Donc, on demandait au chef de corser tout ça. Pour que, voilà.
Tout comme en altitude, d'ailleurs, plus tu montes haut, plus pour les chefs, c'est très difficile de cuisiner.
Ça manque d'oxygène.
Et vous, Thomas Dutronc, quel genre de mangeur vous êtes ?
Je suis très gourmand. Quand c'est bon, j'ai du mal à m'arrêter.
C'est ce qu'on voit, ça fait plaisir.
Il a tout attaqué la deuxième assiette.
Mais c'est bien,
un peu trop vite, ça, c'est pas bon.
Oui,
ça.
C'est vrai.
Il attaque les mailles.
On a tendance à manger trop vite à notre époque, comme on dit.
Trois points communs que je relève. La Corse, Brassens et manger trop vite. Moi, on me reproche toujours de manger trop vite.
Vous faites de belles plongées en Corse, Laurent Balesta. Faites-nous rêver.
Ces deux et trois dernières années, tous mes plus beaux projets se passent en Corse.
Ah, dis donc, quand même.
Ouais. Et là,
dans quel coin ?
Beaucoup au Cap,
au nord,
et même le nord du Cap Corse. Et puis depuis 2 ans, un endroit de la Corse qui est un peu délaissé, qui est la plaine orientale, qui est pas très inspirante comme ça. Il n'y a pas des grandes criques, c'est des plages à perte de vue. Et on a découvert des phénomènes au large de la plaine orientale.
Il y a d'Aléria, par exemple ?
De Galeria, de Solenza, au large de l'étang de Bigouille. Toute cette zone là. Entre 40 et 60 mètres de profondeur, on a découvert un petit poisson qui est très commun, le picarel ou le jarret. C'est un petit poisson, une espèce de sardine. Rien de...
Dites pas le jarret à Christian Etchebest parce qu'il va aller là-bas.
Sauf que ce poisson-là, à un moment de l'année, a un comportement en groupe extraordinaire. Il fabrique des nids dans le sable. Et c'est des nids qui couvrent des surfaces gigantesques. On est les tout premiers à révéler. La première fois que je l'ai découvert, c'était il y a 10 ans. Quelques centaines de mètres carrés de ces nids qui font 50 cm de diamètre. C'était génial. Je fais des photos. Personne n'avait photographié ça avant. J'étais super fier, heureux, tout ça. Mais je croyais voir quelque chose d'un peu anecdotique. Voilà, ce poisson fait quelques centaines de mètres carrés. Ce que j'ai découvert en Corse au printemps dernier, c'est colossal. Le premier champ de nids qu'on a réussi à cartographier avec notre sonar, 28 hectares. Et derrière, c'était d'autres qui faisaient 40 hectares, 50 hectares. Ça attire tous les prédateurs là, c'est-à-dire que des requins qui ont disparu de tout le reste de la Méditerranée viennent là pour manger les picarelles, les anges de mer. On a vu les grands dauphins stagner au-dessus pour venir piquer les poissons dans les nids. Là, ce qui est impressionnant, c'est la quantité. Le nid, c'est juste un trou. Il creuse un trou qu'il entretient très bien avec ses nageoires en soufflant. Et c'est à perte de vue.
Et donc ça, dans le monde entier, ça n'a jamais été vu.
Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas.
Incroyable.
Europe 1, la table du dimanche. Laurent Mariotte.
Déjeuner Frenchy ce dimanche avec Thomas Dutronc, c'est le titre de son dernier album. Et il est en tournée avec Dutronc et Dutronc, père et fils, à partir d'avril sur les routes. Nous sommes ensemble depuis 11h. Si vous avez raté le début, vous le retrouverez en vous abonnant au podcast sur europe1.fr. On se régale avec cette recette de veau de Moléon cuisinée par Christian Etchebest, ici présent, à la tête des cantines du Troquet. À Paris.
Oui, je disais, c'est un quasi de veau, mais il est pas quasi réussi. Il est vraiment réussi.
Entièrement réussi. Et fondant.
Il n'est pas quasi bon, il est vraiment bon.
Mais vous avez raison, parce que le danger avec le quasi, qui est une pièce noble et très tendre et très peu grasse, en fait, c'est que ce soit trop sec. Et là, vous l'avez.
La cuisson.
Vous l'avez fait
fondre. Le choix de la pièce, qui est très important. Vous demandez à votre boucher un joli veau, et après la cuisson. Il vaut mieux toujours moins cuire que trop cuire. D'accord, surtout le veau, même si c'est un peu rosé, vous pouvez passer un peu la salamande pour récupérer. Surtout pas trop cuit, le veau, très important.
Et le plongeur et photographe naturaliste Laurent Balesta nous a rejoint. Il revient des profondeurs avec des photographies sublimes et surprenantes des fonds marins, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans ce beau livre Planète Méditerranée, avec une belle préface d'Éric Orsena. Un très très beau livre cadeau pour Noël aux éditions Emeria. C'est pour vous, Thomas Dutronc, puisque vous êtes un fan des fonds sous-marins. D'où vous vient Laurent Balesta, cette attirance des fonds marins?
Oh, c'est très classique, très banal. Hein. Les films, l'œuvre du commandant Cousteau que je regardais à la télé, et les plages de mon enfance qui ne sont pas les plages les plus belles du monde. Hein.
Vous êtes né à Montpellier?
Montpellier, voilà. C'est même des plages un peu décriées, voire moquées. Hein, les plages Palavas. De la Grande Motte, Palavas, tout ça.
Emmanuel Rubin.
Je voulais savoir si vous aviez une formation scientifique, ou du moins tout votre travail d'observation, de photographe, est-ce qu'il est partagé aujourd'hui avec la communauté scientifique? Parce que quand vous nous parlez, c'est énorme comme découverte.
Parce qu'il y a des découvertes, une récemment.
Bien sûr. Aujourd'hui, j'aspire plus à un travail presque artistique, enfin en tout cas naturaliste, ça je le défends. Mais ma formation, oui, est scientifique, et je co-dirige une petite société d'études, de recherche, d'expertise, où on a 15 salariés qui sont des biologistes marins, et on travaille sur des projets. Des fois, c'est de l'expertise un peu déprimante, de l'expertise de problèmes d'environnement marin. Et puis, des fois, quand même, c'est des programmes de recherche et d'exploration qui nous font... on démarre un truc incroyable, d'essayer de comprendre ces zones de nids de poissons en Corse, ou le mystère des anneaux du Cap Corse, ces formations géantes qui ont été découvertes il y a 10 ans et sur lesquelles on a plongé pour la première fois cet été.
C'est quoi ça, les mystères des anneaux?
Imaginez des anneaux parfaitement circulaires, 20 mètres de diamètre. Okay. Il y en a 1137, on les a comptés. Et on ne sait pas leur origine. On ne comprend pas. C'est à 120 mètres de profondeur.
C'est extraordinaire.
Mon domaine, c'est la nature. Mais ça, c'est surnaturel. En tout cas, on va expliquer que ça l'est, naturel. Mais pour l'instant, la vision qu'on en a, c'est une vision surnaturelle. Des dessins parfaits à grande profondeur et où aucun chercheur n'est totalement d'accord sur la possible origine.
Il n'y a aucune piste, il n'y a aucune d'explication.
Il y a plein de pistes. On vient de faire une énorme mission cet été avec le soutien de la Marine nationale qui nous servait de support surface, avec mes partenaires habituels. Et là, je croise les doigts. J'espère qu'on va pouvoir mener une deuxième campagne cet été et définitivement lever le voile sur ce mystère.
Vous aimez aussi repousser les limites dans vos expéditions, Laurent Balestin. Vous aimez repousser les limites aussi, vous, dans votre vie, Thomas Dutronc ?
Jusqu'à saigner des doigts à la guitare.
En tout cas, quand on réussit vraiment un bon concert, on a toujours envie d'en refaire un encore mieux ou aussi bien, quoi. On est toujours un petit peu déçu, même si on fait de la très bonne musique, machin, mais quand on n'est pas au sommet, qu'on ne s'est pas dépassé, on a un manque. Moi, j'adore me dépasser, j'adore vivre un moment comme ça, musical. Voilà, et sous l'eau aussi, j'aime bien me dépasser, mais moi, ça va vite. Non, mais par contre, comment on fait pour ne pas avoir trop mal aux oreilles, c'est ma question, quand on plonge comme ça, juste avec un masque et un tuba, parce qu'avant, je pouvais descendre, maintenant, je me chope des otites directes.
Je te propose un stage cet été.
Voilà.
C'est une vraie question.
Il faut décompresser, quoi. Mais voilà.
Blague à part, c'est pas très compliqué. Des fois, on a quand même ça marche pas bien et ça peut se rééduquer quand même.
Ça se
rééduque.
Vous expliquerez, c'est la loi de Mariotte sur la compressibilité des gaz. C'est ce qu'on apprend, ça.
Mariotte, l'autre alors.
Oui, c'est un cousin. Christian, en cuisine, vous aussi, vous aimez repousser les limites. Vous nous régalez avec un casier de veau magnifique, là. Mais vous avez ouvert 6 restaurants dans Paris. C'est une façon de repousser les limites, ça, d'ouvrir des restaurants aussi.
Non, c'est une envie. Moi, je suis content de faire plaisir aux gens. Et j'ai réussi à multiplier un peu les restaurants, ça me fait plaisir. Je me suis associé souvent avec des jeunes qui ont travaillé avec moi. Je les ai aidés aussi. Donc voilà, moi, c'est la transmission et ça me va très bien. Et cette cuisine, elle me va très bien.
Il est question de transmission aussi. On en parlait avec cette tournée Dutronc et Dutronc sur les routes à partir d'avril. Dutronc père et fils. Dutronc père et fils. Thomas, donc je vous ai sur les routes avec votre papa à partir d'avril, je le disais. Figurez-vous que les chefs cuisiniers aiment aussi la vie de tournée. Des chefs qui cuisinent dans des restaurants éphémères. C'est ce que vous allez nous raconter, Emmanuel Rubin.
Oui, je ne sais pas ce qu'ils ont depuis qu'on les compare ou qu'ils se prennent pour des rockstars. Les chefs, notamment les jeunes chefs, sont de plus en plus éphémères. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent plus vraiment de restaurant. Alors, c'est une vieille histoire d'ailleurs. Le chef et son restaurant. Pendant des années, il a été assigné au fourneau. Il s'obligeait à être au fourneau. Ça a changé un peu dans les années 60, 70, avec la bande à Bocuse, la nouvelle cuisine, Goemilo, la starification aussi via la télévision, où le chef a commencé à être un peu plus communicant. Mais d'abord, à l'époque, il y avait un vrai débat, une vraie polémique. C'est pas normal que les chefs ne soient pas en cuisine, parade. Ça a un peu changé dans les années 90, avec la génération des Chebestes, qui sont devenus des entrepreneurs, vous en avez vu 6, Ducasse, qui a montré que le chef pouvait changer de statut, être tout à la fois un cuisinier, mais un entrepreneur,
un formateur.
Et le débat, il a un peu disparu, c'est vrai, parce que derrière ça, en fait, vous parliez de transmission, Philippe, mais c'est vrai aussi qu'il allait vous installer des équipes. Donc ce débat, il a un peu disparu, mais aujourd'hui, il revient.
Oui, vous nous dites que ce statut du chef franchit une nouvelle étape. Il se métamorphose.
Aujourd'hui, on le voit à Paris, dans les grandes villes, dans les villes mondes, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les restaurants éphémères. C'est-à-dire des restaurants qui vont durer 3 jours, 3 semaines, au maximum un mois. L'été dernier à Paris, c'était pas moins de 30 restaurants éphémères. Alors souvent, ce sont des restaurants qui sont accompagnés autour d'un événement, voire sponsorisés par des marques. Et justement, pour que ça marche, il faut derrière avoir un chef qui a un certain nom. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, à Paris l'été dernier, sur la moitié de ces restos éphémères, on voyait à peu près l'ensemble des candidats de la dernière saison de Top Chef. Oui, et c'est intéressant parce que, justement, ces chefs-là, ils ont peut-être plus envie d'aller s'enfermer dans un restaurant. Ça fait écho aussi à cette suite post-covidienne où on voit que ce métier est compliqué, difficile et qu'ils ont peut-être envie de s'exprimer, exprimer leur cuisine différemment.
Christian Etchebest.
C'est aussi l'évolution du monde qui a voulu ça, tout simplement. Nous, effectivement, il a tout dit. Nous, on restait dans nos cuisines, on a monté nos affaires, on a tenu nos affaires. Les nouvelles générations, elles veulent autre chose. Moi, j'ai des enfants qui ont 20 ans, je vois bien qu'ils veulent faire autre chose aussi, différemment. Donc voilà. Mais ces jeunes, quand même, moi je dis, on a quand même beaucoup de talent en France. Voilà. Mais après, c'est une autre façon d'avoir des restaurants.
Et ça résonne aussi avec les soucis de la restauration de ces dernières semaines, de ces derniers mois, où on a des problèmes à trouver du personnel et où il y a quand même 200 000 postes à pourvoir dans la restauration, côté cuisine et côté salle.
Exactement. Donc il faudra quand même un moment donné
donné choisir de revenir peut-être un petit peu au restaurant, mais c'est vrai, vous le dites, il y a aussi le public qui a changé, nous mangeurs, aujourd'hui on a soif d'inédits, d'expériences, de nouveautés, ce restaurant éphémère, et ce chef éphémère finalement nourrissent un peu cette envie-là. Moi le seul petit souci c'est qu'un chef à un moment donné, un grand chef, puisqu'on parle de grand chef, il doit incarner une personnalité, une identité culinaire, et généralement ça se passe dans une maison, un restaurant c'est aussi un laboratoire, d'ailleurs on parle de maison. Et s'il s'écarte un petit peu trop de cet endroit du restaurant, si elles ne s'inscrivent pas dans la durée, ces jeunes chefs, eh bien, ils risquent d'avoir un petit peu, vous savez, le destin de cette fameuse formule qui dit que lorsqu'on est dans le vent, eh bien, on a un destin de feuille morte. Je ne leur souhaite pas, mais attention quand même.
belle conclusion de saison, Emmanuel Rubin. C'est dur, Christophe Etchebest.
Non, la fin, c'est dur. Non, moi, je pense qu'ils vont y arriver. Il y en a qui vont faire de l'éphémère comme ça, mais qui vont s'installer derrière. Moi, je vais prendre un exemple très concret qui a travaillé chez moi, Adrien Cachot, qui est au Perchois 3 mois, qui fait une cuisine exceptionnelle. On a découvert. Et moi, je pense qu'Adrien, que je connais très bien parce qu'il a travaillé chez moi, etc., et on est en train de voir, il va monter quand même une affaire derrière. Donc là, c'est un tremplin. En attendant, des fois, ils sont entre deux eaux, ils ne savent pas si...
Il en a eu une à Paris, du côté d'ailleurs de certains quartiers qui s'appelle la Trinité.
Bien sûr.
Un super resto.
Voilà. Chers invités du dimanche, il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Alors, je voudrais qu'on finisse avec nos coups de cœur. Ça peut être une table, un livre, un spectacle, un restaurant. Thomas Dutronc.
Écoute, j'avais envie de parler d'un coup de... On était en tournée près de Fronton, je croyais. On avait mangé justement dans un resto un petit peu éphémère comme ça, avec des plaques de cuisson en céramique assez fortes et tout. Et ils avaient du porc ibérique artisanal.
C'était où ?
Incroyable.
À Fronton, vous dites.
C'est à Fronton, je confonds. Fronton, c'est dans ce coin-là ou
Près de Toulouse.
Je pense, près de Toulouse.
C'est ça, Fronton. C'est un super festival, d'ailleurs. Bon, je voulais... Ça pouvait être un coup de cœur. Et puis aussi, j'ai fait les nuits de la déprime avec le chanteur Kali, là, et j'ai... On a passé un moment, il m'a chanté des chansons comme ça qu'il a créées, puis aussi de son dernier disque. Et vraiment, c'était des coups de cœur. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces nouvelles chansons à Cali. Voilà.
Laurent Balesta, un coup de cœur, tiens.
Un film qui est passé un peu inaperçu il y a, je crois, 2 ans, qui s'appelait The Lost City of Z la lettre.
Ah, un formidable bouquin aussi.
Ce qui est génial, c'est un film sur l'exploration. C'est des officiers britanniques obsédé de découverte, d'exploration.
De nos jours ou...
Non, ça se passe au 19e. Ah oui. Et ils partent en Amazonie, en fait. Voilà, explorer la grande forêt amazonienne à la recherche de civilisations. Bon, voilà.
Redites le titre.
The Lost City of Z.
Christian Etchebest, votre coup de cœur.
Mon coup de cœur, moi, je vais vous donner le meilleur restaurant de poissons au monde. C'est Arantzaleak à Cibourg.
C'est l'auberge de poissons de Ramuncho Cordé.
Voilà.
Dans le Pays Basque.
Laurent connaît bien.
Voilà, ambiance d'auberge, effectivement.
On a joué cet été dans un super festival de Jean-Marie Ecaille au Pays Basque, à Hendaye.
Ah, d'accord. Ben, vous n'étiez pas bien. Ben,
Jean-Marie Ecaille, il faut l'emmener dans un restaurant de poissons. C'est obligatoire.
Bien joué, bravo. Bravo.
Obligé. Bravo. Et pour finir, Emmanuel Rubin.
Allez, on n'a pas beaucoup de temps, mais je rebondis sur l'adresse qu'a évoqué Thomas tout à l'heure, Jean-Baptiste Lavergne, à Versailles. Le restaurant, c'est la table du 11.
La table du 11. Voilà, bravo, il a retrouvé. Merci beaucoup Thomas Dutronc d'être venu à cette table du dimanche. Bonne balade sur les routes. Hein. Vous finissez aux Folies Bergères le 7 décembre. Oui. Et puis votre album que je signale, Frenchy, Thomas Dutronc, l'intégrale. Merci Laurent Balesta d'être venu à notre table.
Merci de m'avoir invité. Merci Thomas.
Votre beau livre, Planète Méditerranée, avec une belle préface d'Éric Orsena. Merci Christian Etchebest.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup de nous avoir régalé. Les cantines du Troquet, ce sont vos restaurants. Il y en a 6 dans Paris. Salut Emmanuel Rubin.
À très vite.
À la semaine prochaine. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Ordonneau à la rédaction en chef. Claire Dutronc, tiens, à la programmation et à la rédaction. Ça sent la famille.
C'est une cousine.
Une cousine. Julien Amat à la production. Julien Or à la technique. Loïc Vimard à la réalisation. Bon week-end. Et merci, grande régalade. Hein. Ah ouais. Oh là là.